Chapitre 56, où il est prouvé qu'il y a plus de ressemblance qu'on ne croit entre les marchands de musique et les marchands de tableaux. Le comte Herbel aspira voluptueusement sa prise, fit disparaître de son jabot la dernière trace de la poudre sternutatoire et continua. On mit donc l'enfant dans un des premiers collèges de Paris, et, outre l'éducation collégiale, on lui donna maître d'allemand, maître d'anglais, maître de musique, si bien que la dépense, au lieu de monter à 2 000 francs, monta à 2 500. Le père vécut avec ses 500 francs, que lui importait la nourriture physique, pourvu que son fils reçût abondamment la nourriture morale. Le jeune homme, tant bien que mal, fit ses classes, c'était même un assez bon écolier, et le père aspirait, comme un dédommagement de tous ses sacrifices, les louanges qui lui arrivaient sur le travail assidu, la bonne conduite et les progrès de son fils. À 18 ans, il sortit du collège, sachant un peu de grec, un peu de latin, un peu d'allemand et un peu d'anglais. Remarque bien qu'il n'en savait qu'un peu pour les 15 000 francs que son éducation coûtait à son père, et qu'un peu, ce n'était point assez. En échange, il faut le dire, il avait fait de grands progrès sur le piano, de sorte que quand son père lui demanda ce qu'il voulait être, il répondit hardiment et sans hésitation « musicien ». Le père ne savait pas trop ce qu'était un musicien. L'artiste, représenté par ces mots, lui apparaissait toujours donnant des concerts en plein vent, sur une vielle, sur une harpe ou sur un violon, mais peu lui importait, son fils voulait être musicien, il avait bien le droit de choisir son état. On demanda au jeune homme chez qui il désirait continuer ses études musicales, il désigna le premier pianiste de l'époque. À grand-peine, le maestro consentit à donner 3 leçons par semaine à 10 francs. C'était 12 leçons, c'est-à-dire 120 francs par mois. De 1440 francs par an à 2 500, la différence n'était point si grande que l'on pût diminuer quelque chose sur la pension du malheureux enfant. Et même, que pouvait-il faire avec 1160 francs? Par bonheur, vers cette époque, le père opta une augmentation de 600 francs. Il s'en réjouit fort, cela lui faisait 1750 francs de pension à son fils. Lui, puisqu'il avait vécu jusque-là avec 500 francs, pardieu, il y vivrait bien encore. Seulement, il fallait un piano. On ne pouvait apprendre que sur un piano des rares. Le maître du piano dit 2 mots au célèbre fabricant. Un piano de 4 000 francs fut réduit à 2 600 et 2 ans furent donnés à l'élève pour payer le piano. Il était convenu que l'élève prélèverait 100 francs par mois sur les 1760 francs. Au bout de 2 ans, l'élève était d'une certaine force, excepté pour les voisins qui, injustes comme on l'est en général pour les progrès que l'on voit ou que l'on entend se développer, trouvait qu'il fallait que le jeune exécutant fût bien faible pour ne pas surmonter plus vite les difficultés dont il les régalait depuis le matin jusqu'au soir. Les voisins d'un pianiste sont toujours injustes, mais le jeune homme ne s'inquiétait pas de cette injustice. Il jouait avec acharnement les études de Bellini et les variations de Robin des Bois, de Mozart, le Freischutz de Weber, la Sémiramide de Rossini. Il y eut plus. À force d'en jouer, il eut l'idée qu'il pourrait en faire. De là à l'exécution, il n'y eut qu'un pas. Ce pas, il le franchit avec assez de bonheur. Comme on le sait, les marchands de musique, comme les libraires, ont tous une seule et unique réponse, variable dans la forme, invariable dans le fond, sur les ambitions des romanciers ou des compositeurs qui débutent. Faites-vous connaître, je vous publierai. C'était un cercle assez vicieux en apparence, puisque l'on ne peut être connu que quand on est imprimé. Enfin, je ne sais pas comment cela se fait, mais ceux qui ont vraiment le diable au corps finissent toujours par être connus. Si, je sais bien comment cela se fait. Cela se fait comme fit notre jeune homme. Il économisa sur tout, même sur sa nourriture, et finit par amasser 200 francs avec lesquels il fit imprimer des variations sur le thème di tanti palpiti. La fête de son père approchait, les variations furent imprimées pour le jour de la fête. Le père eut la satisfaction de voir le nom de son fils écrit en lettres grasses au-dessus de petits points noirs qui lui paraissaient d'autant plus respectables qu'il n'y comprenait absolument rien. Mais après le dîner, le fils posa solennellement le morceau sur l'instrument et, Erard aidant, il eut un splendide succès de famille. Le hasard, à cette époque-là on disait la providence, le hasard fit que le morceau n'était pas mal et qu'il eut un certain succès dans le monde. Notre jeune homme, n'y ayant entassé que les difficultés qu'il pouvait vaincre lui-même, et y ayant fait figurer un nombre de croches, de doubles croches et de triples croches qui, aux yeux inexpérimentés, produisaient un effet assez majestueux, les jeunes élèves de seconde force tombèrent sur le morceau qui s'épuisa rapidement. Par malheur, l'éditeur seul pouvait juger du succès, et comme l'orgueil est un péché mortel et qu'il ne voulait pas compromettre une âme aussi candide que l'était celle du client qui lui avait confié ses intérêts, il en était à sa troisième édition qui lui disait qu'il lui restait encore en magasin 1000 exemplaires de la première. Cependant, il consentit à lui faire imprimer sa seconde étude à ses risques et périls. La troisième, avec partage dans les bénéfices, et il est bien entendu qu'il n'y eut jamais partage. Mais en somme, l'effet se produisit, et le nom du jeune homme commençait à courir dans les salons. On lui proposa de donner des leçons. Il courut chez son éditeur et le consulta. Lui trouvait qu'en demandant 3 francs du cachet, il élevait des prétentions exorbitantes, mais l'éditeur lui fit comprendre que les gens qui donnaient 3 francs pouvaient en donner 10, que tout dépendait des commencements et qu'il était un homme profondément coulé s'il s'estimait moins de 10 francs l'heure. Mais mon oncle, dit Pétrus, qui avait écouté avec beaucoup d'attention et qui était frappé de certaines similitudes, savez-vous que cette histoire a de grandes ressemblances avec la mienne? Tu trouves? Fit le comte avec son sourire narquois. Attends, tu en jugeras mieux tout à l'heure. Et il reprit. En même temps que notre jeune homme s'essayait dans la composition, il acquérait une certaine force dans l'exécution. Un jour, son éditeur lui proposa de donner un concert. Le jeune homme regarda l'audacieux marchand de musique presque avec épouvante. Cependant, donner un concert, c'était l'objet de ses vœux les plus ardents. Mais il avait entendu dire que les frais d'un concert s'élevaient à 1000 francs au moins. Comment oser une pareille spéculation? Si le concert manquait, il était ruiné, non seulement lui, mais encore son père. À cette époque, notre jeune homme craignait encore de ruiner son père. Pétrus regarda le général. « Le nier, n'est-ce pas ? » continua celui-ci. Pétrus baissa les yeux. « Bon, voilà que tu m'as interrompu et que je ne sais plus où nous en étions, » continua le général. « Nous en étions au concert, mon oncle. Le jeune musicien craignait de ne pas faire ses frais. C'est juste. » L'éditeur de musique offrit généreusement de se charger de tout à ses risques et périls toujours. Les entrées que sa musique lui ménageait dans les premiers salons de Paris lui donnaient l'espérance de placer un certain nombre de billets. Il en plaça 1000 à 5 francs. Il en donna généreusement 15 au titulaire. C'était pour sa famille et ses amis. Il va sans dire que le bonhomme de père était placé au premier banc. Ce fut sans doute ce qui exalta notre débutant, car il fit des merveilles. Son succès fut immense. L'entrepreneur fit 1 250 francs de frais et fit 6 000 francs de recettes. « Il me semble, dit timidement le jeune homme à son marchand de musique, que nous avions quelques personnes à notre concert. »« Billets donnés, répondit l'éditeur. » « Bon, dit Pétrus en riant, il paraît que c'est en musique comme en peinture. Vous vous rappelez mon succès au salon de 1824, n'est-ce pas, mon oncle ? Parbleu. Eh bien, un affreux marchand m'acheta mon tableau 1200 livres et le vendit 6 000 francs. « Mais encore, dit le général, touchas-tu 1 200 francs ?»« C'était, dit Pétrus, quelques louis de moins que je n'avais dépensé que pour ma toile, pour mes modèles et pour mon cadre. » « Eh bien, dit le comte avec un air de plus en plus narquois, nouvelle ressemblance, mon cher Pétrus, entre toi et notre pauvre musicien. » Et le général, comme s'il eût été enchanté de cette interruption, tira sa tabatière de son gilet, y pinça une prise du bout de ses doigts aristocratiques et l'aspira en laissant échapper un « Ah, voluptueux !»